Il est 10h35. Aujourd'hui, vous savez que c'est difficile parfois de savoir comment venir en aide à un proche qui n'est plus en mesure de s'occuper de lui-même ou de ses affaires à la suite d'une maladie, à la suite d'un accident ou d'une perte d'autonomie liée au vieillissement. C'est quoi l'inaptitude? À quoi sert le mandat de protection? Comment protéger nos proches pour répondre à ces questions? On reçoit Maître Marie-Claude Leblanc, qui est avocate au Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour en discuter. Bonjour, Marie-Claude.
Bon matin, Annick.
Marie-Claude, d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'inaptitude? Parce qu'on n'a pas tous la même définition.
Oui, donc être inapte, c'est lorsqu'une personne n'a plus les capacités intellectuelles nécessaires pour prendre soin d'elle ou pour gérer ses biens. Donc, par exemple, l'inaptitude peut être causée par une déficience intellectuelle, un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral, donc un AVC, une maladie dégénérative comme l'Alzheimer ou encore une maladie mentale. Donc, à ce moment-là, il est possible que la personne ait besoin d'être représentée dans l'exercice de ses droits civils. C'est important de savoir que chaque personne adulte est présumée être capable de s'occuper d'elle-même et de ses biens. Donc, on est apte là, jusqu'à preuve du contraire.
Comment on détermine si un de nos proches est devenu inapte?
Pour déterminer si une personne est inapte et qu'elle a besoin d'être représentée dans l'exercice de ses droits, il faut obtenir une évaluation psychosociale et une évaluation médicale. Donc, ces évaluations-là s'intéressent à la capacité de la personne à s'occuper d'elle-même et de ses biens. Puis, lorsque l'inaptitude est constatée puis que le besoin de représentation est établi, là, il y a des démarches qui peuvent être faites auprès du tribunal. Pour obtenir les évaluations médicales et psychosociales, il est possible de communiquer avec le médecin de famille ou le travailleur social de votre proche. Si jamais il n'est pas suivi par un professionnel, on peut contacter aussi le CIUSSS du territoire où il réside. Et finalement, si la personne se trouve dans un CHSLD ou encore qu'elle est hospitalisée, bien, le médecin traitant et un travailleur social de l'établissement pourraient faire ces évaluations.
Marie-Claude, admettons que la personne est considérée comme étant inapte. C'est quoi l'étape qui suit?
Bien, il faut d'abord vérifier si la personne a un mandat de protection. Donc, c'est ce qu'on appelait avant le mandat d'inaptitude. Il s'agit d'un document écrit dans lequel on peut choisir qui va s'occuper de nous et de nos biens si jamais on devient inapte. Donc, ça nous permet de désigner un ou plusieurs mandataires. Ce n'est pas obligatoire d'en préparer un, là, un mandat de protection, mais ça permet d'exprimer à l'avance nos volontés et nos préférences. Pour que le mandat de protection soit effectif, il faut s'adresser au tribunal. À ce moment-là, on parle d'une demande d'homologation du mandat de protection. C'est à cette étape-là que les évaluations psychosociales et médicales vont être nécessaires et vont servir à démontrer au juge que votre proche là, est bel et bien inapte et qu'il a besoin d'être représenté. Donc, tant qu'il n'est pas homologué, le mandat de protection n'a aucun effet et il ne permet pas d'agir là, au nom de votre proche. Si la personne, elle n'a pas de mandat de protection, mais que les rapports démontrent qu'elle a besoin d'être représentée et donc qu'elle est inapte, il va être possible quand même de s'adresser au tribunal, mais cette fois pour demander l'ouverture d'une tutelle. Donc, en gros, il va s'agir de demander à ce qu'une personne de son entourage soit nommée pour s'occuper d'elle ou de la gestion de son argent et de ses biens.
OK. Là, j'imagine que la tutelle est adaptée à la situation de la personne concernée.
Oui, c'est ça exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle la personnalisation de la tutelle. D'abord, le tribunal va déterminer la nature de la tutelle. Donc, est-ce qu'elle vise la personne, ses biens, ses finances ou encore les deux? Ensuite, il va fixer les délais où les réévaluations médicales et psychosociales vont être faites à nouveau. Ça, ça va nous permettre de vérifier périodiquement si la tutelle correspond encore aux besoins de la personne. Et finalement, le tribunal va préciser certains actes que la personne va pouvoir continuer de faire malgré l'ouverture de la tutelle. Je pense par exemple à conserver son droit de vote, choisir son lieu de résidence, signer elle-même son bail de logement, gérer ses revenus ou encore signer un contrat de travail. Donc, la tutelle va être modulée pour tenir compte des facultés de la personne et lui laisser là, la plus grande autonomie possible.
Combien de temps ça prend pour toutes ces démarches? Parce qu'on m'a expliqué que c'était pas très, très rapide, en fait.
Non, effectivement. Donc, les délais pour obtenir tous les documents nécessaires à la procédure d'homologation ou à l'ouverture de la tutelle, donc les évaluations médicales et psychosociales, là, on parle d'environ au moins 6 mois. Et une fois les documents obtenus, bien là, on parle d'environ 3 à 6 mois pour la procédure au tribunal, donc pour la procédure d'homologation. Les délais sont similaires pour une demande d'ouverture de tutelle. Bref, là, on parle au moins d'un an au total.
Disons qu'un auditeur a un proche qui est clairement inapte, puis par exemple, cette personne-là loue une voiture neuve ou achète une thermopompe d'un commerçant itinérant, alors que les démarches pour l'ouverture d'une tutelle ou pour l'homologation d'un mandat de protection n'ont pas été faites. Est-ce qu'il y a des protections pour la personne inapte dans de telles circonstances?
Oui, donc la loi prévoit des protections. Donc le Code civil du Québec prévoit que les actes qui sont faits antérieurement à la tutelle ou à l'homologation du mandat de protection, ils peuvent être annulés ou les obligations de la personne là, qui soit réduite sur la seule preuve que l'inaptitude était notoire ou encore qu'elle était connue du co-contractant à l'époque où les actes ont été passés. En bref, il est possible de demander au tribunal d'annuler un contrat, par exemple, qui aurait été conclu alors que la personne était inapte. Par contre, c'est sûr que, comme je l'expliquais tout à l'heure, toute personne majeure est présumée être apte. Ça veut donc dire que c'est à la personne qui souhaite contester la validité du consentement de faire la preuve qu'elle était inapte au moment où le contrat a été conclu. Donc, j'ai un exemple là, qui illustre bien cette protection. Dans une décision qui a été rendue en 2021 par le tribunal administratif du logement, le bail d'une dame atteinte de l'Alzheimer a été annulé. Donc, au mois d'août 2016, l'inaptitude de la dame avait été confirmée dans les évaluations médicales et psychosociales. 3 mois plus tard, elle signe un bail de logement, mais à ce moment-là, elle n'était pas encore sous tutelle. Puis en plus, la preuve révèle que le locataire savait très bien là, que la dame était atteinte de la maladie. Et ce n'est seulement que 2 ans plus tard là, que le jugement de la tutelle a été prononcé, donc il y a eu l'ouverture de la tutelle. Par contre, puisque l'évaluation psychosociale indique que madame a des problèmes de jugement, qu'elle n'est pas en mesure de comprendre ce qui est sain pour elle et qu'elle est influençable au moment de signer le bail, bien, le tribunal va permettre d'annuler le bail.
C'est intéressant. Il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment qui n'étaient pas au courant de ça. Si nos auditeurs ont des questions, comment ils peuvent communiquer avec vous?
Donc, pour toute question juridique, vous pouvez nous contacter au Centre de justice de proximité en téléphonant au 418-412-7722. On vous rappelle que nos services sont gratuits et confidentiels.
Merci beaucoup, Marie-Claude.
Merci, Annie.